Frères et sœurs, vous êtes-vous demandé ce que pourrait penser un enfant en entendant la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Dieu jardinier qui fait des boutures de cèdre et qui veut que les arbres des champs sachent que c'est lui le Seigneur ? Est-ce qu'il veut que le sapin reconnaisse qu'il est le Seigneur et pas simplement le sapin, mais aussi le chêne, le bouleau, le hêtre, le pin et tous les autres? Est-ce que c'est un conte où les arbres se mettraient à parler? En fait, le prophète Ézéchiel parle ici avec une parabole, c'est-à-dire une histoire symbolique. L'histoire est une image pour aider à comprendre la réalité. L'histoire parle des arbres des champs, mais le cèdre représente la royauté en Israël. Et les arbres des champs représentent quant à eux les différentes nations de la terre. Pour frapper l'imagination et la mémoire, les prophètes en Israël utilisent souvent ce procédé dans leurs oracles. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'esprit de l'homme fonctionne avec des images. Le prophète retransmet ce que Dieu lui indique par des histoires, par des images, pour aider le peuple à comprendre. Et parfois, les prophètes donnent même une image vivante. Ézéchiel, par exemple, va mimer le siège de Jérusalem par les troupes de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il construit même, selon la recommandation du Seigneur, une espèce de maquette de la ville, avec divers ustensiles. Il va manger une nourriture mesurée sur une balance, cuite sur des excréments, se rasant la tête et brûlant une partie de ses cheveux. Pourquoi ? Pour exprimer la dureté du siège qui vient. Il faut attirer l'attention d'un peuple dont l'attachement à Dieu et à sa mission s'est assoupi. Il faut attirer l'attention du peuple juif dont l'attachement à Dieu et à sa mission s'était assoupi, endormi, affadi. La particularité du prophète Ézéchiel, c'est sa lecture, ou on pourrait dire plutôt sa relecture de l'histoire. Ézéchiel a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'était une période très troublée de l'histoire d'Israël. Le royaume de Jérusalem était coincé entre l'influence de deux grands empires, Babylone d'un côté, l'Égypte de l'autre. Le roi et le peuple de Jérusalem, cependant, ne mettaient plus leur confiance dans le Seigneur, mais dans les alliances politiques. Et cela a fini par le mener à sa ruine. Et finalement, Jérusalem est ravagée, le temple brûlé et le peuple emmené en exil. Or, Ézéchiel apporte un éclairage tout à fait particulier. Au lieu de lire l'histoire simplement comme une histoire politique, une histoire militaire, limitée aux interactions des rois et des armées, Ézéchiel relit l'histoire comme une histoire sainte, une histoire où Dieu est l'acteur principal. Les hommes et les royaumes sont à l'œuvre, mais ils participent en fait à un projet plus grand, à un dessein plus grand dont le Seigneur est l'auteur. Un projet plus grand que le Seigneur conduit. L'histoire des hommes apparaît alors comme participant à un projet que Dieu lui-même conduit, quand bien même, d'ailleurs, tous les participants à cette histoire n'en ont pas conscience. Donc, l'histoire va vers un accomplissement. L'histoire a bien un but. Ce but, c'est que les nations, toutes les nations, c'est-à-dire donc tous les peuples, reconnaissent que Dieu, c'est le Seigneur qui s'est révélé, celui qui s'est révélé à Abraham, à Moïse, qui a fait alliance. Et donc ce n'est pas Baal ou ce n'est pas Astarté. Alors vous allez me dire, oui, mais moi ici, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais adorer Baal ou Astarté, et je sais peut-être d'ailleurs plus trop que Baal, ça correspondait au dieu de l'orage et Astarté à une déesse de la fécondité. Je ne me posais pas cette question. Alors, en quoi ce texte d'Ézéchiel peut-il me dire quelque chose ? C'est que nous avons vite fait de remplacer les Baals et les Astartés par d'autres puissances, par d'autres valeurs. Mon Baal, peut-être que c'est l'argent. Mon Baal, peut-être que c'est le pouvoir. Mon bal, peut-être que c'est la célébrité. Mon bal, peut-être que c'est la possession de tel ou tel objet. Et comment est-ce que je reconnais, on pourrait dire, mon attachement à ces, entre guillemets, divinités ? C'est le fait que je leur sacrifie le plus de mon temps. C'est elles qui prennent le plus de mon temps, le plus de ma préoccupation. C'est elles qui structurent mon existence, mon calendrier, au point que, me placer devant le Seigneur, je ne trouve plus la place. C'est un signe pour nous, et nous comprenons alors que nous sommes, tout autant que le peuple à l'époque d'Ézéchiel, menacés, tout autant que les nations à l'époque d'Ézéchiel, menacés d'avoir d'autres dieux que le Seigneur qui s'est révélé à Abraham et à Moïse. Et donc ce but, c'est que toutes les nations reconnaissent qui est le vrai Dieu, parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui est source de l'amour. Parfois, nous recherchons auprès de ces faux dieux justement ce que Dieu seul peut nous donner. L'argent peut être dans notre vie est ce qui peut être le plus grand piège. Parce que quand j'ai de l'argent, je peux comme, si on peut dire, donner matière à mes désirs. J'avais envie d'une voiture et l'argent se transforme en voiture. J'avais envie d'être accompagné par des gens, je les invite, ou peut-être parfois même je peux, entre guillemets, louer des gens pour qu'ils viennent. J'ai l'impression du coup d'avoir tout un réseau de relations, voilà le Dieu qui me donne ce à quoi j'aspire, la renommée s'il le faut. Sauf que tout cela peut disparaître en un instant. C'est ce moment où, s'il vient à se tarir, je me rends compte qu'il n'y a plus personne autour de moi. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est le Dieu qui est fidèle. Le Dieu de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même étant Dieu, donne sa vie pour nous sur la croix. Là où les autres se sont enfuis, même les disciples ont eu peur, Jésus est resté jusqu'au bout. Quand bien même on lui disait au pied de la croix, « Mais si tu es le Messie, descends de la croix, sauve-toi toi-même. » Comme il est venu nous sauver et nous récupérer là où nous étions prisonniers jusque dans la mort, lui ne s'est pas enfui, lui a été fidèle. Et nous sommes appelés du coup à découvrir ce Dieu qui nous aime fidèlement jusqu'au bout, ce Dieu qui nous partage sa vie, ce Dieu qui nous dit « Là où je suis, vous y serez avec moi ». Il y a donc vraiment un trésor à ne pas perdre, à ne pas échanger avec un trésor que le ver, la mythe et le temps effacent. Et pour que les nations comprennent que c'est le Seigneur Dieu, le témoignage sera donné par le peuple de Dieu. C'est le désir de Dieu parce que de fait, c'est ça le seul vrai témoignage. Comment est-ce que je sais que le salut nous est donné ? Ah ben, si je vois des gens qui vivent de ce salut, si je vois mon voisin, mon collègue, mon frère, qui vit de ce salut de Dieu, qui vit de la lumière de Dieu, alors là je m'étonne. Parce qu'on me dit, tel saint à une époque qui a vécu ça, bon, très bien, mais ça me semble toujours très loin. Et donc, nous qui sommes les membres du peuple de Dieu, le Seigneur nous dit, c'est à toi que je confie la mission d'être ma lumière. Pour ceux qui cherchent où est la source de l'amour, où est la source du pardon, où est la source de la vie. Car si dans ta vie, quelque chose de cette lumière resplendit, alors il croira que le salut vient pour lui aujourd'hui. Et c'est notre mission, par notre vie, dans notre travail, dans nos loisirs, dans notre famille, comme peuple de Dieu, de manifester que le Seigneur Jésus est notre Dieu, qu'il est notre vie. Nous devons interpeller par la qualité de notre vie le monde. Alors, comment le faire? Comment être nourri? Parce que, vous avez vu dans l'Évangile, Jésus aussi parle en parabole. Et parfois, on se dit, on se méprend, on pense que les paraboles, c'est tout de suite clair. Non, pas du tout. Les paraboles, c'est une énigme à la base. Et vous savez qu'une énigme, il faut trouver la clé pour pouvoir en trouver le sens. Sinon, on se dit, mais c'est comme un casse-tête, hein. Vous savez, un casse-tête, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on le résout? et vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait. Des années, vous avez une espèce de bloc et vous n'avez jamais saisi comment sortir cela. Quelle est la clé ? La clé, c'est la personne même de Jésus. Dans l'Évangile, on nous disait, la foule, elle n'entendait que les paraboles, mais les disciples, eux, s'approchent et ils demandent à Jésus, « Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Qu'est-ce que ça signifie ?» Et du coup, ils vont comprendre que la clé, c'est toujours cette personne de Jésus, cette relation à Jésus. Jésus ne vient pas nous donner un petit message, une maxime de sagesse, et on dire « Ah oui, c'est une bonne maxime, ça. C'est un bon conseil. » Et puis, il s'en irait, le conseil suffirait. Nous avons besoin de sa personne. Sa parole peut nous donner des conseils, mais les conseils ne suffisent pas. Nous avons besoin de sa personne. Vous voyez, quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », on peut dire « C'est une belle maxime ». Sauf qu'il y a plein de moments où je vais me rendre compte « Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, j'ai essayé avec lui, j'ai essayé avec elle, et j'y arrive pas, on n'y arrive pas. Est-ce que c'est vraiment pour moi cette parole ? Est-ce que c'est encore pour moi ou c'était pour un autre ?» Et là, je ne peux pas simplement me lier à une parole, à un écrit sur du papier. J'ai besoin d'un regard qui se pose sur moi et qui me dit « Oui, je t'ai adressé cette parole et je te donne ma grâce. » Et vous savez bien cette différence qu'il y a entre lire simplement sur un morceau de papier « Je t'aime » et voir la personne en face qui nous le dit les yeux dans les yeux « Je t'aime ». Et pour vivre de Jésus, nous avons besoin de cette relation. Nous avons besoin d'entrer dans cette présence. Nous avons besoin de nous approcher de lui pour plonger notre regard dans le sien, pour recevoir son regard dans le nôtre. La foule, elle entend « T'as compris, toi ?» Pas vraiment. Et ils rentrent chez eux, le cœur vide du coup, vide de l'absence de ce regard que ceux qui s'approchent de Jésus ont découvert. Alors comment est-ce que nous venons découvrir ce regard ? Nous venons le découvrir à l'Eucharistie en particulier. Nous venons le découvrir quand nous partageons la parole de Dieu à plusieurs. Nous venons le découvrir quand nous venons poser nos questions sur notre vie, sur notre foi, aux prêtres que Dieu a donnés, mais aussi à nos frères chrétiens qui ont reçu l'Esprit Saint par la confirmation. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Dieu nous a donné un peuple pour qu'à travers ce peuple, nous puissions voir son visage, voir sa présence, recevoir justement de celui qui est consolé actuellement par la présence de Dieu, recevoir, moi qui peut-être me sens tout vide, le regard d'espérance et de foi qui me remettra debout. Frères et sœurs, le Seigneur se révèle comme notre Dieu, comme le Dieu pour toute la terre, et il a voulu que nous puissions le découvrir pour en témoigner, pour nous en vivifier les uns les autres. Seigneur Jésus, toi qui es le prophète par excellence, celui qui révèle la parole de Dieu, celui qui est la parole de Dieu, fortifie-nous dans notre baptême, lui qui a fait de nous des prêtres, des rois, des prophètes. Que nous soyons fidèles à notre mission de témoin pour le monde à travers toutes les dimensions de notre vie. Que la vie de notre Église révèle aux hommes que le Dieu véritable, c'est le Seigneur, toi notre Dieu, et que toi Jésus-Christ, tu es son envoyé, son Fils bien-aimé, un seul Dieu avec lui, dans l'unité de l'Esprit Saint. Amen.